Le producteur et réalisateur Alexander Korda a dit un jour « Un succès établit un producteur, deux succès une maison et trois une génération ». Raymond Danon fait partie de cette catégorie rare d'entrepreneurs du cinéma qui ont réussi à bâtir une filmographie d'exception. On lui doit plus de 70 films entre le milieu des années 60 et la fin des années 80 et il fut à l'origine de très grands succès réalisés par Claude Sautet, Pierre Granier-Defer, Jean-Paul Rapneau et Bertrand Tavernier. À l'occasion de la sortie en Blu-ray de deux films produits par Raymond Danon, La vieille fille et L'ordinateur des pompes funèbres, dans le cadre de la nouvelle collection Mes années 70 éditée par Studio Canal, retour sur la carrière d'un homme qui était tout à la fois chef d'orchestre, chef d'entreprise, chercheur d'argent et découvreur de talents.
Histoire de cinéma. Un podcast revu et corrigé, coproduit par Tsugi Radio et présenté par Antoine Julien.
Le 10 octobre 2018, l'AFP, l'agence France Presse, publie un communiqué signé Alain Delon. Le grand producteur de cinéma Raymond Danon est mort ce matin. Il était le père de ma filleule, l'actrice Géraldine Danon, qui vient de me prévenir. Il était mon ami, mon intime, mon associé. J'ai fait avec lui une quinzaine de films. Je veux lui rendre hommage. Je suis très triste. Nous sommes devenus coproducteurs de nombreux films, dont Les Granges Brûlées, La Veuve Coudert, Flick Story. Il m'a appris à faire de bons films et m'a appris mon métier de producteur. Raymond Danon était un passionné de cinéma et un homme intègre. Puis c'est au tour de Géraldine Danon, sa fille, de s'exprimer sur Instagram. Il s'est battu avec un courage et une détermination extraordinaire contre cette saleté de crabe qui chaque jour un peu plus le dévorait sans jamais perdre sa joie, son enthousiasme, son humour, son optimisme, son élégance et son merveilleux sourire. Repose en paix papa chéri, la vie sans toi n'aura plus jamais la même saveur. Je t'aime fort. Raymond Danon était inconnu du grand public. Comme la majorité des producteurs de films, il est resté dans l'ombre, éloigné du strass et des paillettes. Et pourtant, rien au départ ne le prédestinait à une carrière dans le cinéma. Raymond Danon naît le 14 avril 1930 à Paris. Ses parents, d'origine juive, sont nés en Turquie, à Izmir. Son père est exploitant de bananes en Martinique. Tous les ans, le jeune Raymond va passer ses vacances sur l'île. Mais pas en 1939 et le début de la Deuxième Guerre mondiale. En 1941, ses parents obtiennent des laissez-passer et prennent le bateau à Lisbonne, puis font escale à La Havane. La famille Danon préfère rester dans la capitale cubaine plutôt que d'aller en Martinique, contrôlée désormais par le régime de Vichy. Ils finissent par revenir en France au moment de la libération, en 1944. Après avoir fait ses études au lycée Janson de Sailly, Raymond Danon commence à travailler avec ses sœurs dans la fabrication de jupes. Il part ensuite en Afrique, s'occuper des affaires d'import-export de son père, où il va créer une société de nettoyage, Impec Pressing. Le succès commercial est immédiat. Il devient rentier à seulement 28 ans. De retour en France, il constate que le stationnement dans Paris devient de plus en plus fastidieux. Il décide alors d'acheter pour les banlieusards un grand garage cours de Vincennes. Très vite, la société Volkswagen vient lui demander de lui louer la totalité de son garage en lui payant un taux d'intérêt supérieur aux mensualités qu'il réglait lui-même. Il devient de nouveau rentier avec de confortables bénéfices en poche. Son beau-père, Maurice Jacquin, est le patron du plus grand circuit de salles de cinéma d'Afrique de l'Ouest. Il voit bien que Danon a le sens des affaires et lui demande donc de travailler avec lui. À cet instant, Raymond Danon ne connaît pas grand-chose au cinéma. Il est envoyé à Düsseldorf pour négocier le rachat de la filiale française de la UFA, le célèbre groupe cinématographique allemand. Une fois propriétaire de la société de distribution UFA France, devenue UFA Comacico, Maurice Jacquin nomme Danon administrateur-directeur général, lui restant le PDG. Des agences dans toute la France voient le jour. L'homme d'affaires s'occupe des copies, de l'édition des affiches, de la vente de la publicité. Puis Jacquin se lance dans la production en créant les films Copernic. Il reprend, sous la direction de Raymond Danon, la superproduction Lafayette de Jean Dréville en 1962, au budget d'1 milliard de francs de l'époque. Malgré le succès du film, c'est un échec financier. une première expérience mitigée qui encourage pourtant Danon, qui a fini par attraper le virus de la production, comme il le dira plus tard, à produire un second film, Les Grands Chemins de Christian Marquand en 1963, puis plusieurs longs-métrages avec Jean Gabin, dont Le Tonnerre de Dieu, qui est un gros succès. Un peu lassé de n'être considéré que comme le gendre de Maurice Jacquin, Raymond Danon décide de voler de ses propres ailes en rachetant en 1967 la compagnie Lyra Film, créée par Lino Ventura et Ralph Baum. Mais c'est en 1970 que sa carrière de producteur va définitivement basculer. Raymond Danon souhaite adapter le roman de Paul Guimard, intitulé « Les choses de la vie », paru en 1967. Mais le producteur a le plus grand mal à monter le projet et subit le refus de plusieurs cinéastes de renom, dont Claude Chabrol et Alain Cavalier. Il se voit souvent faire ce reproche. Qu'est-ce que ça peut faire aux gens, l'histoire d'un type de 40 ans qui se casse la gueule en voiture ? Le roman raconte en effet l'accident mortel d'un quadragénaire, Pierre, qui se remémore son passé récent, notamment les deux femmes qui ont compté dans sa vie, son épouse, dont il est séparé avec qui il a eu un fils, et Hélène, avec qui sa relation amoureuse est à un tournant. Danon contacte le scénariste et auteur Jean-Louis Dabadie et lui demande d'écrire une adaptation du roman, en collaboration avec Guimard, comme le raconte Claude Sautet dans le livre « Sautet par Sautet » de N.T. Bin et Dominique Rabourdin, aux éditions de La Martinière. Le producteur fait signer un contrat à Dabadie avec différents cas de figure. La rémunération de l'auteur variera en fonction du devis estimé, s'il excède ou non les 2 millions de francs. Plus le budget sera important et plus les émoluments de l'auteur seront conséquents, surtout dans le troisième cas de figure, le financement du film par une société américaine. Jean-Louis Dabadie et Claude Sautet ayant déjà travaillé ensemble, Danon envoie le scénario au réalisateur de Classe Tourisque pour avoir son avis, sans imaginer qu'ils veulent le tourner car Sautet avait, durant cette période, renoncé à la réalisation. Et le scénario plut tellement à Sautet qu'il se décida à le mettre en scène. Mais dans le même ouvrage, Jean-Louis Dabadie donne une autre version. C'est Paul Guimard qui lui demanda d'écrire une première adaptation de son roman pour convaincre les producteurs. Il en écrivit 70 pages qu'il envoyait à Sautet avec ce mot « Mon petit Claude, j'ai écrit ça à partir d'un livre de Guimard, je cherche un metteur en scène, il n'y a que toi qui puisses me conseiller quelqu'un, appelle-moi demain. » Sautet lut le scénario dans la nuit et rappela Dabadie le lendemain, très enthousiaste. Raymond Danon avait envisagé Yves Montand et Annie Girardot pour camper le couple vedette Pierre et Hélène. Sautet leur préféra Michel Piccoli, qui l'avait beaucoup impressionné dans le Doulouse de Jean-Pierre Melville, et Romy Schneider, qu'il rencontra par hasard au studio de Boulogne, où l'actrice post-synchronisait La piscine de Jacques Deray. Voici comment le cinéaste évoque Romy Schneider dans ses conversations avec Michel Bouju, publié chez Actes Sud. « Pendant le tournage, j'étais surpris constamment par ce qu'elle me donnait. Je n'avais pas encore bien mesuré son éclat à l'écran. Elle avait bien sûr un caractère absolu. Quand on tournait, il fallait que je ne la quitte pas des yeux. Sinon, elle me disait aussitôt, « On refait celle-là, tu ne m'as pas regardé. » Et toute la journée, elle me bombardait de petits mots amusants et chaleureux. Claude Sautet débute le tournage à l'été 1969 à Thoiry, dans les Yvelines, par la séquence de l'accident, qui va prendre 18 jours, coordonnée et réalisée par le cascadeur Gérard Streff. La suite du tournage se déroule à Paris, à La Rochelle et à l'île de Ré. Confiants devant le résultat final, les attachés de presse du film, que sont Bertrand Tavernier, Pierre Rissian et Jean-Claude Missian, initient une technique largement reprise depuis, organiser des projections pour un nombre limité de journalistes qui se déroulait le plus souvent au Studiorama, suivi d'un verre dans un bar proche. Puis il demandait à Claude Sautet de venir pour le mettre en contact avec les personnes intéressées par le film. Mais il est arrivé que les choses dérapent, comme l'a révélé Tavernier dans « Sautet par Sautet » de N.T. Bin et Dominique Rabourdin. Une fois, lors d'une projection, un exploitant, c'était le propriétaire du Berlitz, M. Courtine, est parti avant la fin. Claude l'a attrapé par son impair et a commencé à l'insulter en disant « Et moi, quand je vais dîner chez vous, si je fous le camp pendant le plat de résistance, vous me trouverez peut-être un peu mal élevé. » Courtine était un homme extrêmement grossier, très arrogant. Je crois qu'il avait été insulté d'une manière formidable. Une autre fois, un journaliste de Paris Match, à la sortie des choses de la vie, s'est précipité vers Sautet et lui a dit « Mais s'il avait braqué à droite au lieu de braquer à gauche, il n'y aurait pas eu d'accident. » Là, j'ai cru qu'il se faisait massacrer. Claude lui répond « Je n'ai pas fait un film sur la prévention routière, pauvre con. Je ne m'occupe pas du code de la route, je m'occupe d'un personnage qui essaie de mourir et qui essaie d'accepter la mort. Imbécile. » À la fin de l'année 1969, Les choses de la vie remportent le prestigieux prix Louis Deluc. La sortie du film est annoncée pour le 13 mars 1970. Raymond Danon produit alors deux films qui doivent sortir à quelques semaines d'intervalle. Les choses de la vie donc, mais aussi Le dernier saut d'Edouard Luns avec Maurice René et Michel Bouquet. La CFDC, la Compagnie Française de Distribution Cinématographique, qui distribue les deux films, avait acquis les choses de la vie parce qu'elle voulait le dernier saut, une histoire sur le papier plus attrayante, les recettes de l'un devant éventuellement payer pour l'autre. Et c'est finalement le film de Sautet qui fut un succès commercial et paya pour celui de Luns. Le jour de la sortie du film, Raymond Danon, qui avait ses bureaux au 92 avenue des Champs-Élysées, descendit sur le trottoir et fut saisi devant la foule qui s'amassait devant l'Élysée Biarritz.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je te regarde.
Tu as rempli le papier pour Tunis ? Tu m'écoutes ?
Ouais.
Les années passent, la mer est verte. Tu as ta vie, moi j'ai la mienne. Tout va bien.
Elle était belle, Catherine.
Elle est toujours belle.
Oui.
En juillet, il faut que je parte en vacances avec mon fils, Casino.
Après ton fils, il y aura autre chose. Ton père, ton travail, ton copain François, ton île, n'importe quoi, n'importe qui.
Tu n'as rien à me dire ?
Je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée de t'aimer.
Moi aussi, je suis fatiguée. T'expliquer, parler. On va s'arrêter.
Les choses de la vie fut un grand succès critique et public, avec près de 3 millions de spectateurs, faisant de lui le 9e film le plus rentable de l'année 1970 en France. Le film est également sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Pour Danon et Sautet, c'est le début d'une belle collaboration qui se poursuivra avec Max et les Ferrailleurs et Vincent, François, Paul et les autres. Mais Raymond Danon ne produit pas que des réalisateurs confirmés. Il se lance aussi parfois dans l'aventure des premiers films. Danon a le goût du risque calculé, comme il le révèle dans le livre de Yonick Flo, « Les producteurs, les risques du métier », publié en 1986. Tout film est un risque. Moi, j'essaie de prendre des risques limités, calculés, avec un bon scénario, une vedette ou semi-vedette attractive, un metteur en scène d'expérience, en tout cas, un de ces éléments au moins. Je reçois parfois des réalisateurs qui me montrent trois pages, m'affirmant que le film sera génial, que tout est dans leur tête, qu'ils n'ont jamais rien tourné, qu'ils ne veulent pas d'acteurs connus, etc. Ils se trompent d'adresse. Ce n'est pas le style de Raymond Danon. Mais je conçois que ce cinéma existe. Ce n'est pas ma cup of tea. Et pourtant, Raymond Danon accepta de produire La vieille fille, le premier long-métrage réalisé par Jean-Pierre Blanc, qui était un cinéaste amateur. Il avait tourné son premier court-métrage 16 mm en 1968. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux célibataires dans une station balnéaire durant les vacances d'été. Elle, la vieille fille du titre, seule et réservée, et lui, plutôt débonnaire, ont du mal à se parler avant qu'une certaine complicité ne s'installe entre eux. L'apprenti réalisateur, très timide, eut toutes les peines du monde à proposer son scénario à Annie Girardot, comme la comédienne le raconte dans cette interview présente dans l'édition Blu-ray de La vieille fille, accompagnée des propos du cinéaste.
Comment j'ai rencontré Jean-Pierre Blanc ? Eh bien, ça date d'un an. Je tournais avec Brigitte Bardot, Les Novices. Et puis nous tournions devant le théâtre de l'atelier, j'étais dans ma petite roulotte. Et j'ai vu apparaître un monsieur, comme ça, tout chevelu, tout timide, tout comme ça, qui m'a dit, bah voilà, je voudrais... C'est toujours comme ça, qui m'a donné un manuscrit. Je lui ai dit, ah bon, très bien.
Des fois, on se promène dans la rue, on trouve un tournage, Et on sort, on aperçoit justement Annie Girardot, on va la trouver, et puis c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Je disais pas, je veux pas dire que je me promenais toujours avec mon scénario à la main.
Et puis je l'ai lu, et j'ai trouvé ça formidable.
C'est assez prétentieux au départ, lorsqu'on n'est pas connu, lorsqu'on n'a jamais rien fait, d'écrire pour des acteurs précis, notamment pour Annie Girardot, pour Philippe Noiret.
Il se trouve que Philippe m'a dit la même chose. Il m'a dit, il est venu chez moi, il est venu comme ça. Il m'a apporté ce manuscrit, et puis il me dit, je l'ai oublié comme ça, et puis il était là, puis je l'ai lu, j'ai trouvé ça formidable, et puis comme il n'avait laissé ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone, il m'a dit, j'étais bien ennuyée parce que ça lui plaisait beaucoup, il aurait voulu lui dire, mais il n'a pas su, et puis je crois que 15 jours après, quand même, il a retéléphoné, et comme il ne se souvenait pas du nom, il a dit, mais enfin, que voulez-vous, monsieur ? Mais monsieur.
Je lui ai retéléphoné quelques temps plus tard.
Ah, mais venez donc, monsieur, etc.
Et puis il m'a dit que ça lui plaisait.
Alors voilà comment nous nous sommes rencontrés.
Les choses se sont arrangées assez facilement.
Il n'avait pas de producteur. Alors il me téléphonait comme ça, une fois tous les deux mois. Oui, j'ai téléphoné. Ben, je lui dis, bah alors. Bon, et puis il se trouve que j'ai eu plus de chance. Et puis un jour, il y a un producteur qui s'y est intéressé.
Et un producteur formidable, d'ailleurs, il faut le dire, parce que... D'abord, j'ai envie de faire un autre film avec lui.
Et je crois que la chose qui m'a vraiment décidée, à part lui, à part son scénario, etc., c'est une chose, c'est que c'était pas un caprice du tout. Mais vous savez qu'on a peur. Quelquefois, on a un sujet, on y croit. Et puis, tout en continuant d'y croire, on a peur. On dit non, je doute, non, il faut pas que je le fasse. Enfin, vous voyez, j'ai eu des petites choses comme ça. Alors, je lui ai fait croire, puis après, j'ai dit, écoute, non, on va pas le monter ou dans un autre complexe, etc. Et puis j'ai su qu'il a dit... Après j'ai dit oui, et puis j'ai su qu'il a dit une chose, il a dit « Si Girardot refuse encore, je la tue ».
Raymond Danon est séduit par le ton très particulier du film, son univers doucement mélancolique, ses situations incongrues, étranges, tantôt comiques, tantôt cruelles. Philippe Noiret et Annie Girardot, qui sort du triomphe de Mourir d'aimer d'André Cayatte, sont également conquis par cette comédie amère, comme le définit lui-même Jean-Pierre Blanc, et acceptent de se lancer dans l'aventure.
Ce qui me déplaît, ce type...
M'excuserai, madame, de manger mon poisson pendant que vous entamez votre dessert, mais c'est parce que... Bon. Vous êtes en vacances, évidemment.
Évidemment.
Quelle histoire. Ça commence bien. Heureusement que je file demain. Elle est désagréable, cette fille. J'ai jamais vu une bobine pareille. Avec un peu de chic, elle serait pas mal. C'est comme mon hareng, avec un peu de goût, il était mangeable. Elle, on dirait une bonne sœur. Une bonne sœur en civil. Elles se foutent en civil, maintenant, les bonnes sœurs. Sûrement que c'est une autrichienne. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Marcassus. Gabriel Marcassus.
Marcassus. Muriel Bouchon.
Bouchon ? Sûrement que c'est une autrichienne.
Jean-Pierre Blanc a plusieurs références en tête. Il cite Roman Polanski, Alain Resnais et surtout Federico Fellini, selon lui le plus grand créateur de l'histoire du cinéma. Il lui a d'ailleurs rendu un petit hommage dans La vieille fille avec l'apparition d'une fille chauve qui accentue encore le climat insolite de l'hôtel où se noue la rencontre entre les deux célibataires solitaires. Il s'entoure également de collaborateurs prestigieux, notamment Pierre Lhomme à la photographie et Michel Legrand à la musique. Raymond Danon présente La vieille fille au distributeur qui, surpris et décontenancé par le ton du film, ne souhaite plus en assurer la sortie. Le film sort finalement en salle le 5 janvier 1972 comme Roue de secours à la suite de l'échec commercial et du retrait prématuré de l'affiche des Deux Anglaises et le Continent de François Truffaut. Et il obtient un succès notable avec 1 900 000 entrées. Et il voit Jean-Pierre Blanc de remporter l'Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin. La critique est enthousiaste, séduit notamment par le soin que Jean-Pierre Blanc apporte à une galerie de second rôle traitée de façon mordante, de Michael Lonsdale et Edith Scobb en coupe bigot, à Marthe Keller en serveuse émoustillée. Par la suite, Danon soutiendra d'autres premiers films, à commencer par L'horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier en 1974, adapté d'un roman de Georges Simenon. Car pour le producteur, le scénario est primordial, comme il le précisa dans le livre « Les producteurs, les risques du métier ». Le rôle du scénario est essentiel. Il n'y a d'ailleurs pas assez d'auteurs en France et l'on n'emploie trop souvent les mêmes. Remarquez, si j'en juge par les sujets que je reçois par la poste, c'est rarement bon. Mais c'est aussi une question de moyens. Pour découvrir de nouveaux talents, il faudra investir dans les essais, des travaux de débutants. 350 000 francs seraient nécessaires par sujet, et comme on ne peut penser obtenir un bon sujet si on n'investit pas sur 9 autres, cela demande un investissement d'au moins 3,5 millions. Dans l'idéal, on a besoin de 3 bons sujets, donc investir plus d'un milliard de centimes. Qui peut se permettre cela, à part des majors ou des grosses sociétés intégrées? La crise des sujets explique en partie la crise du cinéma français. Et comme le film français se vend de plus en plus mal à l'étranger, ceci explique cela, les moyens financiers suffisants manquent aux producteurs. Raymond Danon travaille beaucoup et vite, produisant 5 à 6 films par an. Il fait confiance et délègue. Une fois d'accord sur le script, le réalisateur, le plan de travail, le financement, le choix du directeur de production, l'équipe artistique et technique, il laisse l'équipe libre de ses mouvements, en intervenant peu sur le tournage. Mais selon lui, le cinéma sans vedette, ce n'est pas tout à fait du cinéma. Et sa collaboration avec Alain Delon en est la preuve éclatante. Diaboliquement vôtre, La Veuve Coudert, Traitement de choc, Les Granges brûlées, Les Saintes Glaces, Flic Story, Le Gitan, Monsieur Klein, Comme un boomerang, Armageddon, L'Homme pressé. Les deux hommes vont collaborer sur 11 longs-métrages, dont beaucoup en coproduction. Pour Raymond Danon, Alain Delon est, selon ses termes, un chef, un dominateur. Mais j'ai rarement rencontré dans le métier un homme qui a tant de charme. On lui résiste difficilement. Nous avons peut-être fait trop de films, en tout cas trop en même temps, 5 en 2 ans. Nous ne nous imposions rien et travaillons en parfaite collaboration et confiance. Je suis persuadé que si en catastrophe, je lui demandais de tourner gratuitement pour moi, il accepterait. Et j'agirais de même. Raymond Danon fait même une apparition dans Monsieur Klein de Joseph Losey. Mais c'est en 1978 qu'il remporta la récompense suprême, l'Oscar du meilleur film étranger, pour La vie devant soi de Moshe Mizrahi, que les Américains rebaptisèrent Madame Rosa, adapté du roman d'Émile Ajar, alias Romain Gary. Le producteur vint chercher la statuette dorée en compagnie du cinéaste au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles.
And the winner is...
Why don't you announce it?
All right. Oh, Madame Rosa. Madame Rosa.
Accepting the award on behalf of Madame Rosa from France, Moshe Mizrahi and Raymond Danon.
I want to thank you all for this. I want to thank all the people who worked on the film. And above all, I want to thank Madame Rosa herself, Simone Signoret.
I thank everybody, and especially the director, Moshe Mizrahi, who did a real good job.
La carrière de Raymond Danon se poursuivra dans les années 80 avec le dernier film interprété par Romy Schneider, La passante du sans-souci de Jacques Rouffio, qui connut une production difficile suite à la mort tragique du fils de la star. À la veille du tournage, qui avait déjà été reporté de 3 mois après une blessure au pied, l'actrice subit une grave opération, l'ablation d'un rein. Les assurances refusèrent alors de la couvrir. Raymond Danon n'était pas que producteur de films, il fut aussi le président des studios de Boulogne, puis d'Unifrance, l'organisme de promotion des films français à l'étranger. Il fut même promu chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand le 6 février 1986. Une reconnaissance méritée pour un homme qui avait une haute idée du métier de producteur. La production, disait-il, est un métier qui ne s'improvise pas, en dépit des idées reçues et des clichés. Métier difficile, sous-estimé par le public et la critique, méconnu, mais qui pour moi est capital. Le même scénario, le même réalisateur donneront un film différent selon le producteur. Il y a un style de producteur, comme pour les créateurs, et quel que soit le média. On ne nous rend pas assez justice car nous avons été les artisans des débuts et sommes indispensables à l'essor d'un art et d'une industrie plein d'avenir. Mais soyons modestes, à chaque nouveau film, il faut se dire comme chantait Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. « C'était Une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma en partenariat avec Tsugi Radio. Retrouvez Une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et corrigée. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau chapitre.